VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Bamako, 14h à Brazzaville. Bienvenue à notre journal. Au Mali, la prise d'otages continue à l'hôtel Radisson à Bamako. Selon les autorités maliennes, 80 occupants de l'hôtel auraient été libérés par les forces spéciales maliennes. Mais il reste environ 90 captifs, ou du moins plusieurs dizaines de captifs dans le bâtiment, notamment des membres du personnel, des ressortissants indiens, des Chinois et un nombre indéterminé de citoyens français. Nous rejoignons notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
La situation en ce moment, c'est que l'assaut continue. Une assaut qui a été lancée par les forces spéciales du Mali, qui sont appuyées en logistique médicale par l'armée française, il faut le reconnaître, et les forces des Nations Unies qui sont au Mali, la MINUSMA. En tout cas, pour le moment, le ministre malien de la Sécurité et de l'Intérieur nous parle de 3 otages qui ont été tués. En tout cas, pour le moment, l'assaut continue. On ne sait pas ce que ça va donner comme suite. Les tirs à l'arme continuent et les échanges de tirs entre les forces spéciales et les terroristes qui se trouvent à l'intérieur du bâtiment.
Est-ce que l'on entend aussi des survols d'hélicoptères, une action aérienne ou bien tout se passe au sol?
Tout se passe au sol. En tout cas, il y a un dispositif sécuritaire au sol. Il n'y a pas d'abord d'intervention aérienne. Pour le moment, aucun hélicoptère n'a survolé l'hôtel à Radisson. On sait que tout l'entourage du bâtiment, tous les gens qui étaient dans les environs de Radisson, les écoles, les banques ont été fermées. La sécurité leur a demandé de se mettre à l'abri. C'est ce qui se passe maintenant. En tout cas, tout le mouvement est au sol. Il n'y a pas d'intervention aérienne.
En ce qui concerne les occupants de l'hôtel, on dit par exemple que certains ont été libérés par les preneurs d'otages en récitant la shahada, la profession de foi musulmane.
Un policier qui s'occupe de la sécurité, il a dit dans son interview qu'il était lui-même caché, c'est-à-dire il était caché, mais quand les assaillants l'ont découvert, ils l'ont fait sortir de sa cachette, et ils lui ont demandé de réciter la shahada, chose qu'il a pu faire. Mais il y a aussi l'artiste international guinéen Ségouba Bambilo qui a été sauvé, mais lui par contre n'a pas récité la shahada. Ça veut dire qu'ils ont posé la question à certains, mais d'autres ont été libérés parce qu'ils se trouvaient à des positions qui n'arrangeaient pas les assaillants parce que personne ne connaît leur nom, mais en tout cas on sait que les 7 étages de l'hôtel sont pris en otage et puis il y a certains clients aussi qui se sont enfermés totalement dans leur chambre.
Est-ce qu'il y a déjà des réactions officielles du gouvernement malien ou de l'ONU, ou bien pour le moment les autorités gardent le silence?
En tout cas, le représentant spécial des Nations Unies qui se trouve au Mali, le chef de la MINUSMA, Monji Amdi, a condamné les attentats avant d'affirmer qu'il a apporté un soutien logistique médical sur le site. Et ce soutien aussi, on le voit, c'est visible sur le terrain ici. Le gouvernement malien, à travers le ministre de la Sécurité intérieure, a quand même expliqué les dispositions sécuritaires qui sont au niveau de l'hôtel et ce qui va se dérouler par rapport à l'assaut.
Notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré. Selon les autorités maliennes, les assaillants seraient entrés dans le périmètre de sécurité de l'hôtel à bord d'un véhicule portant des plaques diplomatiques. Et puis les 3 tués seraient des gardes postés à l'entrée de l'hôtel. L'ambassade des États-Unis à Bamako a publié un communiqué exhortant le personnel diplomatique et les ressortissants américains dans la capitale malienne à rester chez eux. Le président Barack Obama, actuellement en voyage en Malaisie, a été informé de la situation et suit l'évolution des événements. La prise d'otages met en évidence le danger posé par les djihadistes qui restent actifs au Mali, malgré l'expulsion des militants islamistes du nord du pays par une force internationale menée par la France. On reste en Afrique de l'Ouest. Le président guinéen Alpha Condé a limogé jeudi le ministre de l'Intérieur et 2 autres responsables gouvernementaux pour faute lourde, selon des décrets rendus publics à Conakry, après des violences meurtrières ayant suivi le week-end dernier un rassemblement religieux. Il a mis fin aux fonctions du ministre de l'Intérieur Mahmoud Cissé, du secrétaire d'État aux affaires religieuses El Hadj Abdoulaye Diassi et de son adjoint El Hadj Aboubakar Fofana. Leurs remplaçants n'ont pas encore été nommés.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Afrique centrale maintenant, des milliers d'enfants sont exposés à la tuberculose au Cameroun à cause du manque de vaccin BCG. Ce vaccin anti-tuberculose est introuvable depuis plus de 3 mois dans la région de l'extrême nord. La situation inquiète les parents dont les nourrissons sont vulnérables à cette maladie. Le reportage de notre correspondant Moki Edwin Kinzeka.
L'angoisse lit sur le visage des mères d'enfants rencontrées au centre de santé de Pumpumri. Aissatou qui porte son bébé est révolté.
Mon enfant n'a pas eu le BCG plus de 3 mois. Depuis la naissance, quand je viens ici, on me dit qu'il n'y a pas le BCG. Je ne sais pas pourquoi.
Comme Aissatou, de nombreux autres parents n'en peuvent plus face à la rupture des stocks de vaccins BCG. Le couple Maimouna et Sanda Ibrahim, que nous rencontrons dans une autre formation sanitaire, est fatigué de faire de va-et-vient.
Chaque mardi, je viens ici. Comme on vient souvent, on ne trouve pas le BCG, on rentre.
Qu'on nous donne l'information, nous dit qu'est-ce qui se passe et que devons-nous faire.
Tous craignent que leur nourrisson contracte la tuberculose du fait de l'absence de vaccin BCG. Les autorités sanitaires se disent eux-mêmes conscients du danger, comme l'indique le point focal du programme élargi de vaccination au centre de santé d'Ngwe à Maroua, Jérémy Gangui.
Entre l'enfant qui a reçu le BCG et celui qui n'a pas reçu, l'enfant qui a déjà reçu est plus protégé et moins exposé. En ce moment, nous avons une rupture, l'antigène BCG. Pour le moment, on nous dit d'attendre. Il y en a qui se fâchent et pensent que c'est seulement au niveau du centre ici.
Le personnel de ces hôpitaux est impuissant face à cette situation. Salamatou et Bakari sont deux aides-soignants.
On dit depuis Yaoundé, il n'y a pas de vaccin. On s'inquiète, mais on fait comment?
Nous recevons tous ceux qui ont 45 jours. On commence à leur faire les premiers vaccins, qui est le pneumo, le BTC, et nous mettons la polio.
Selon les experts, les nourrissons de l'extrême nord du Cameroun sont beaucoup plus exposés à la tuberculose. Cette partie du pays se distingue par la malnutrition, la promiscuité et les conditions d'hygiène précaires, qui sont entre autres facteurs favorisant la tuberculose chez l'enfant. Moki Edwin Kinzeka, VOA Afrique, Yaoundé.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
L'actualité dans le reste du monde. Proche-Orient, au moins 5 personnes, dont un citoyen américain, ont été tuées hier à Tel Aviv et en Cisjordanie occupée dans 2 attaques anti-israéliennes menées par des Palestiniens. Les précisions de Bagassi Koura.
C'est l'une des journées les plus meurtrières pour les Israéliens depuis le début, le 1er octobre, d'une escalade de violence ayant fait plus de 100 morts. Après quelques jours de relative accalmie, 3 personnes ont été tuées et plusieurs blessées en Cisjordanie près du bloc de colonies israéliennes du Gush Etzion. Selon l'armée israélienne citée par l'AFP, un Palestinien à bord d'une voiture a ouvert le feu sur un groupe de civils à une intersection avant de foncer sur un groupe de piétons. Les forces de sécurité présentes sur place ont ouvert le feu. Un des morts est un Israélien habitant la colonie proche du lieu de l'attaque et un autre, un citoyen américain selon la police israélienne qui n'a pas révélé son identité. Le ministère de la Santé palestinien a dévoilé l'identité de la 3e victime, un Palestinien du nom de Shadi Zoudi Ratib Arafat, âgé de 26 ans et habitant d'Hébron en Cisjordanie. Le ministère a accusé l'armée israélienne de l'avoir tué. Au cours du même après-midi, un Palestinien a tué 2 Israéliens et blessé un 3e à coups de couteau à Tel Aviv.
Actualité aux États-Unis maintenant. Ici à Washington, la Chambre des représentants contrôlée par les Républicains a adopté hier une proposition de loi suspendant l'accueil de 10 000 réfugiés syriens et irakiens aux États-Unis. Mais le président Barack Obama a promis d'user de son veto si le texte venait à être adopté aussi par le Sénat. Lionel Gaïma.
Pour la Maison-Blanche, il ne s'agit là que de nouveaux obstacles dilatoires et impraticables. Et des démocrates craignent que cette pause ne dure des années. Mais M. Obama reste optimiste, une fois passée cette vague initiale de rejet des réfugiés syriens après les attentats de Paris. Certains législateurs craignent en effet que des terroristes infiltrent le groupe des réfugiés et commettent aussi des attentats similaires ici. Le texte a été voté par 289 voix contre 137, un nombre important de démocrates se joignant à la majorité républicaine. Mais on ignore son sort au Sénat. Il comporte des restrictions plus rigoureuses encore pour les Syriens et les Irakiens entrant aux États-Unis. L'administration Obama soutient, elle, que sa procédure de sélection des réfugiés est plus rigoureuse que pour n'importe quel autre type de voyageur. Seulement, un peu plus de 2000 réfugiés syriens ont été acceptés à ce jour depuis le début de la guerre civile en 2011.
Et pour terminer, les attentats du 13 novembre à Paris risquent de manquer le début d'une campagne d'action terroriste menée par le groupe État islamique dans les pays de la coalition qui le combattent en Syrie et en Irak. Irak. C'est ce qu'affirme la lettre confidentielle Intelligence Online, généralement bien informée. Voilà, c'est tout. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com ou alors sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.